Voilà, bonsoir. Nous allons donc commencer cette soirée. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette nouvelle soirée des mardis d'éthique publique du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, soirée organisée en partenariat avec la revue Études. Vous êtes nombreux. Là, c'est un téléphone qui n'a pas été arrêté, qui produit des interférences. Voilà. Voilà, je crois que vous êtes toujours nombreux, habitués aux nouveaux venus, et votre présence montre l'intérêt de ces rencontres et elle les encourage également. Alors, je veux saluer tous ceux qui nous suivent en direct, donc non seulement vous présents à Paris, mais ceux qui se trouvent à Saint-Étienne, Aix-en-Provence, Chaville, Lyon, je crois Perpignan, Bordeaux, où on me signale qu'il y a une délégation du Secours catholique, et sans oublier Athènes. Le premier mardi de chaque mois, il s'agit donc d'offrir des éléments de réflexion sur une question qui a trait à notre actualité, problèmes sociaux, politiques, économiques, internationaux, culturels, religieux. Les questions ne manquent pas, le plus souvent graves et difficiles. L'esprit de ces soirées est alors d'apporter des repères pour la réflexion et pour l'action dans un climat d'écoute et de débat. Il n'est certes pas envisageable de tout dire, d'apporter des réponses définitives à ceux qui nous interrogent, mais du moins, pouvons-nous espérer que notre propre réflexion en sorte renforcée. Ce soir, nous avons retenu comme sujet « Penser un monde sans frontières, quelles conséquences pour les migrations ?» C'est une question qui est au cœur de bien des débats. On sait combien elle soulève des passions, combien elle est un lieu de clivage dans l'opinion publique. On éprouve aussi que se tiennent à son sujet des propos plus que simplificateurs, outranciers, pour ne pas dire dangereux, quand ils jouent volontairement sur les peurs, renforcent des agressivités et imposent l'exclusion d'autrui. Ce sont ces voix qui font probablement le plus de bruit dans la société, de sorte que beaucoup, sans les écouter pour autant, se demandent ce qu'il en est exactement, cherchent à comprendre, mais ne savent pas toujours très bien comment s'informer et se faire une opinion. Il est clair que nous ne pouvions pas ignorer ici un tel sujet. Il porte trop d'enjeux qui touchent au principe même du vivre ensemble et à la rencontre des peuples à travers des situations souvent dramatiques. Mais alors, quel discours tenir ? Sans fermeture ni naïveté. Alors, pour nous aider ce soir, je suis vraiment très heureux d'accueillir Hélène Thiollet et François Gemène. Je les remercie, d'autant plus qu'ils ont répondu vite et chaleureusement à l'invitation qui leur a été adressée et que, par leurs travaux, ils sont particulièrement qualifiés pour nous aider à ouvrir des perspectives peut-être nouvelles pour nous. Le but de la soirée n'est pas d'imposer une vision, une solution, mais de penser, comme le dit le titre de notre soirée, de penser de la manière la plus raisonnée qui soit une orientation que l'on n'a pas l'habitude de penser. Hélène Thiollet, vous enseignez les relations internationales et l'étude des migrations internationales à Sciences Po. Parmi vos activités nombreuses, vous êtes membre notamment du comité de rédaction de la revue Critique internationale. Vous êtes aussi coordinatrice avec Catherine Witold de Vanden du projet de l'ANR Mobilité mondiale et gouvernance des migrants. Vos recherches actuelles portent sur les politiques migratoires dans les pays du Sud et vous vous intéressez tout particulièrement au Moyen-Orient et à l'Afrique subsaharienne. François, j'oublie sans doute beaucoup de choses. François Gemène, vous êtes spécialiste des questions de gouvernance mondiale, de l'environnement et des migrations à l'Université de Liège. Vous traversez donc les frontières. À l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, vous êtes aussi expert associé au, aux séries Sciences Po, le Centre de relations internationales. Vos recherches sont essentiellement consacrées aux migrations et aux déplacements de populations liées au changement de l'environnement. Et comme Hélène Thiollet, vous êtes l'auteur de nombreuses publications. Alors j'ajoute que vous avez organisé tous deux l'année dernière un séminaire expérimental sur le sujet de l'ouverture des frontières et que vous allez nous partager aussi les résultats de cette expérience, ce qui explique une disposition un petit peu nouvelle et inédite ce soir, c'est-à-dire que dans la mesure où vous avez travaillé ensemble sur ce projet, vous n'allez pas intervenir successivement, mais vous allez vous redonner mutuellement la parole. D'un point de vue technique, et pour ceux qui nous suivent en visioconférence, soit au Centre Sèvres, soit ailleurs, une petite contrainte technique, c'est-à-dire nous ne pouvons pas filmer à la fois le PowerPoint et les intervenants. Donc vous aurez des deux, donc vous aurez un petit peu de frustration. Si vous êtes loin, ce que vous ne verrez pas les intervenants tout le temps, mais tout sera fait pour suivre au mieux ce qui sera dit. Alors, je vous laisse donc la parole. Et si on ouvrait les frontières ?
Je vous remercie beaucoup de votre invitation, tout d'abord, et de nous donner l'occasion de partager ce soir avec un public nombreux les résultats d'une expérimentation en sciences sociales qui sont pour l'instant, alors nous ne dirons pas confidentiels, mais dont l'écho a été limité pour des raisons très simples. Le séminaire dont nous allons commenter avec vous ce soir, les résultats, a eu lieu en décembre dernier dans l'île de Malte. Il a rassemblé une vingtaine de personnes. Nous en parlerons un peu plus au cours de cette présentation. Et nous travaillons en ce moment à la publication d'un article qui présentera les résultats de ce séminaire, ainsi que des réflexions à la fois méthodologiques, éthiques et épistémologiques sur la façon dont on peut envisager la transformation de nos conditions sociales et politiques. Donc la transformation de notre quotidien, des contraintes dans lesquelles nous vivons et ce que ces exercices épistémologiques nous apprennent sur la situation actuelle autant que sur l'avenir.
Ceci pour dire peut-être simplement bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence ce soir, merci de votre invitation, que nous n'allons pas vous présenter des résultats de recherche définitifs, mais que nous allons au contraire vous inviter à participer à cette réflexion avec nous et que ce que nous allons plutôt vous exposer ce soir, c'est une démarche scientifique qui essaie de montrer comment il est possible aujourd'hui de penser et de réfléchir ensemble à ce que serait un monde dont les frontières seraient ouvertes. Et nous convions à être partenaires et à avoir cette réflexion avec nous, et donc nous n'allons pas vous présenter des résultats définitifs coulés dans le marbre, mais au contraire davantage une démarche scientifique qui vous permettra de participer en quelque sorte à cet exercice de science en marche.
Donc lançons-nous dans cette expérimentation bis avec vous ce soir. On peut partir de quelques réflexions liminaires qui vont peut-être vous permettre de comprendre pourquoi nous sommes posés cette question de l'ouverture des frontières, notamment dans son rapport à la migration internationale, à la mobilité des personnes. Il nous a semblé, au cours de nos recherches, mais aussi dans notre vie de citoyens, de civils, qu'on assistait à une forme de fétichisation de la frontière dans les discours contemporains, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des discours politiques, qu'il s'agisse des conversations qu'on peut avoir, encore une fois, dans le civil. Ce qui est tout à fait paradoxal, parce que nous baignons dans un environnement à la fois pratique, politique et idéologique, dans lequel la mondialisation est censée avoir aboli, en grande partie, la fonction des frontières nationales dans leur contrôle de tout un tas de flux. On pense bien sûr aux flux financiers, aux flux commerciaux, aux flux culturels, aux flux informationnels, à la fois en offrant des dispositifs techniques pour permettre ces flux, les faciliter, le transport, bien sûr, les avions, etc., le tourisme, Internet, etc., etc., mais aussi en donnant un cadre politique à cette libération. Je vais utiliser ce terme de libération au lieu de libéralisation qu'on utilise souvent, qui a une connotation plus idéologique. Donc cette libération des flux a été accompagnée, encouragée par un certain nombre de cadres politiques de dérégulation du commerce, dérégulation des flux financiers, etc. Donc c'est un contexte que vous connaissez parfaitement bien, je ne m'attarde pas dessus. Mais quand on observe cette mise en mouvement globale de tout un tas d'objets dans le cadre de la mondialisation, on constate néanmoins que la mise en mouvement des personnes, la mobilité des hommes, reste extrêmement contrainte. Elle est contrainte dans les faits par l'existence des frontières d'une part, donc du contrôle de la mobilité à l'entrée de chaque État-nation, et ces frontières, on le verra, sont des lieux pluriels. Elle est aussi contrainte, et c'est un peu l'hypothèse à partir de laquelle nous avons travaillé, dans nos esprits, dans nos mentalités. Il nous semble impossible d'envisager une libération de la mobilité humaine au même titre que nous envisageons très aisément une libération des flux financiers, du commerce, de la communication, la possibilité d'envoyer des mails dans tous les sens, etc. Donc, autant qu'aux obstacles de fait à cette mobilité, qui sont le contrôle des migrations par les États-nations tels qu'on n'y assiste aujourd'hui, qui n'ont jamais fait l'objet, par exemple, de rounds de négociations, de cycles de négociations dans le cadre des accords généraux du GATT. On aurait pu s'y attendre. Le GATT, pendant 40 ans, a promu la libéralisation progressive de différents secteurs de l'activité économique à travers les échanges commerciaux. La question des migrations ne s'est jamais posée. L'OMC n'a jamais posé directement cette question des migrations. Donc il y a ici ce que James Holyfield a appelé au début des années 90 un paradoxe libéral. C'est-à-dire qu'on a un contexte global de libération qui correspond à une libéralisation des flux qui exclut à la fois de fait et en droit, dans nos esprits, dans notre cadre d'interprétation, la mobilité humaine.
Et il y a aussi quelque part là-bas au fond un paradoxe européen. L'idée de l'ouverture des frontières est une idée absolument fondatrice dans le projet européen. L'idée que les Européens puissent circuler librement d'un pays européen à un autre, c'est ce que je fais plusieurs fois par semaine entre la France et la Belgique. Mais par ailleurs, jamais sans doute les frontières extérieures de l'Union européenne n'ont eu autant d'importance. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la politique d'immigration européenne, on se rend compte que l'alpha et l'oméga de cette politique, c'est le contrôle et la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, comme si l'Union européenne pouvait penser en son sein l'ouverture des frontières, mais comme si cela devait forcément s'accompagner d'un renforcement et d'un contrôle accru aux frontières extérieures de l'Europe, et comme si, quelque part, ouvrir à l'intérieur imposait un renforcement des frontières extérieures, et comme s'il n'était pas possible, finalement, de penser au-delà de l'Europe ce qui était pensé, ce qui a fondé le projet européen, et comme si finalement l'idée européen n'était pas transposable dans une vision cosmopolite du monde, au prétexte que les flux migratoires seraient trop importants, que les pays seraient trop inégaux, etc. Alors que quand l'Union européenne est fondée dans les années 60 et puis élargie dans les années 70 et dans les années 80, les pays européens sont également très très différents les uns des autres. Lorsqu'on intègre l'Espagne ou la Grèce, ce sont des pays qui sortent de longues périodes de dictature et qui sont profondément différents au moment où ils sont intégrés du reste de l'Union européenne. Et donc, en plus de ce paradoxe libéral, il y a aussi un paradoxe européen qui est très profond. Et globalement, dans l'ensemble des pays industrialisés, il y a une sorte de fétichisation de la frontière qui, sans doute aujourd'hui, n'a jamais été aussi importante. Et on voit, pas seulement en matière de politique migratoire, mais en matière de coopération internationale en général, que la fragmentation du monde n'a jamais été aussi importante, avec de plus en plus de peuples qui revendiquent leur autonomie et donc qui revendiquent une frontière pour eux qui se puisse maîtriser, et plus largement, je dirais, une faiblesse généralisée de la coopération internationale, qu'il s'agisse des migrations, qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse de la lutte contre la pandémie d'Ebola pour le moment. Et donc, cette fragmentation du monde me semble être un phénomène structurel qui caractérise sans doute le début de ce siècle. Ce qui fait que, paradoxalement, lorsque vous envisagez que, comme Hélène l'a dit, que les frontières puissent être ouvertes aux flux migratoires et qu'il puisse y avoir la libre circulation des personnes entre tous les pays, vous passez rapidement pour un doux rêveur. Cette idée des frontières ouvertes passe pour être une utopie politique, alors qu'au fond, on a réalisé la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux. L'idée que ce concept puisse être appliqué aux personnes semble être une sorte de douce utopie réservée à des mouvements associatifs et militants. Et au fond, ce qui nous a semblé, ce qui fonde l'idée de ce séminaire, c'est qu'elle n'avait jamais été réfléchie scientifiquement. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de nous demander, au fond, qu'est-ce qui se passerait vraiment si on ouvrait les frontières? C'est une expérience, au fond, et c'est tout le problème des sciences sociales, c'est que par rapport aux sciences dures, il est difficile de faire des expérimentations en temps réel. Vous ne pouvez pas juste dire, tiens, on va augmenter le taux de chômage pour voir ce que ça fait. Tiens, on va augmenter la natalité des Français pour voir ce que ça donne comme résultat économique. Vous ne pouvez pas faire ce type d'expérimentation en temps réel. Et donc c'est le problème de l'ouverture des frontières, c'est qu'on ne peut pas dire, tiens, on va ouvrir les frontières pendant une semaine, voir ce que ça se fait, et puis on referme. Et donc forcément, il a fallu inventer d'autres manières d'essayer de réfléchir ensemble et de concevoir ce que pourrait être ce monde, non pas dans lequel les frontières auraient disparu, mais dans lequel les frontières seraient ouvertes, et c'est l'objectif du séminaire et aussi l'objectif de l'exercice auquel nous vous confions aujourd'hui.
Effectivement, c'est juste pour rebondir sur ce que disait François, cette démarche est partie de ce paradoxe initial entre une ouverture croissante d'un certain nombre de la libération d'un certain nombre de phénomènes de flux et ce qu'on a considéré être une forme de constriction des flux migratoires à l'échelle internationale. Donc on a utilisé le terme de surfrontiérisation pour parler par exemple des frontières externes de l'Union européenne ou de création de frontières dans des nouveaux pays ou de renforcement de frontières dans des pays qui avaient des frontières plutôt poreuses du point de vue de la migration. Et c'est un peu ce que veut illustrer cette diapositive qui vous montre une des manifestations de cette surfrontiérisation qui est la construction, l'érection de murs. Le monde et les frontières territoriales d'un certain nombre de pays se sont hérissées ces dernières années en particulier de murs. Et on a, si vous voulez, une sorte de manifestation un peu épiphanique, comme ça, dans la matérialité du monde tel que nous le vivons, enfin, si on franchit des frontières, mais enfin, tel que les migrants le vivent, de ce paradoxe libéral. Cette diapositive vous montre un exemple peu connu, donc nous avons choisi de ne pas vous montrer diapositive représentant par exemple les murs hérissés de barbelés et de rasoirs au-dessus des barbelés autour des enclaves de Ceuta et Melilla. Nous avons décidé de ne pas vous montrer le mur avec des barbelés électrifiés qui séparent le Mexique et les États-Unis, mais un mur peu connu qui sépare le Yémen et l'Arabie Saoudite, qui est tout aussi sympathique en termes de dispositif anti-immigration.
Il faut réaliser que dans le monde actuellement, tu me corrigerais Hélène, il y a 39 murs et clôtures de sécurité à la frontière de deux ou plusieurs États. C'est-à-dire qu'on n'a jamais construit autant de murs et de clôtures que depuis la chute du mur de Berlin.
Donc cette petite entrée en matière accomplie pour vous expliquer un petit peu l'origine de notre interrogation, de notre démarche scientifique. Peut-être qu'il nous faut revenir de manière un peu analytique sur la définition de ce que nous entendons par frontière. Avant de vous inviter à ouvrir les frontières avec nous, peut-être qu'on peut se pencher un peu sur ce que sont les frontières, ce qu'elles sont en termes pratiques, ce à quoi elles servent, ce qu'elles sont comme type de lieu, comme type de comportement, exactement de quoi parle-t-on quand on parle de frontières. En général, on considère que la frontière, c'est une ligne. On a la représentation cartographique d'un trait dans nos atlas entre deux pays, une ligne qui sépare deux États-nations ou qui les rapproche en fonction de ce qu'on choisit de regarder. Donc c'est un dispositif que les géographes appellent dyadique, c'est-à-dire qui ouvre sur deux entités, en l'occurrence des entités politiques, deux pays. Mais c'est peut-être aussi un peu plus ou peut-être un peu moins qu'une ligne sur une feuille de papier ou dans une carte géographique. La notion de frontière est, nous semble-t-il, liée à deux choses. Elle est liée profondément à la souveraineté territoriale des États qu'elle sépare ou qu'elle rassemble. Elle est leur incarnation matérielle ou leur incarnation de papier. Parfois, la frontière n'a pas de réalité physique quand il n'y a pas de mur ou pas de rivière ou pas de montagne qui sépare deux pays. En revanche, elle existe dans les atlas. Donc, elle existe légalement et politiquement. Elle existe juridiquement. Donc, il peut s'agir d'une dyade territoriale, d'une ligne de séparation qui peut être, encore une fois, murée, comme on vient de le dire, entre le Mexique et les États-Unis, entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. La frontière peut aussi être une zone frontière. La Méditerranée, de ce point de vue-là, l'espace méditerranéen est une zone frontière qui sépare les pays du sud de la Méditerranée des pays du nord de la Méditerranée. Et on sait que c'est une zone frontière extrêmement active. Il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses autres que du tourisme balnéaire et des bateaux de plaisance. Il s'y passe des opérations militaires, il s'y passe des traversées clandestines, et il s'y passe tout un tas d'activités. Donc vous avez probablement suivi le déroulé médiatique ces derniers temps. La frontière, ce peut être aussi une zone de rétention administrative, c'est-à-dire non pas un lieu qui est situé à la marge géographique d'un État-nation, mais un lieu qui est situé à l'intérieur du territoire d'un État-nation, dans lequel on va enfermer, cloisonner des populations, en général demandeurs d'asile ou migrants en situation dite irrégulière, afin de les déterritorialiser. Donc ce sont des lieux dans lesquels on va enfermer ces populations qui n'ont pas droit d'accès à la résidence sur le territoire et qui vont de fait se retrouver un peu comme des lieux frontières, des non-lieux, des hors-lieux, hors du territoire national. Et les murs de ces zones de rétention, qui peuvent être des prisons ou n'importe quel bâtiment administratif, deviennent de fait des frontières territoriales. Les aéroports ont des zones spécifiques, les aéroports parisiens par exemple, mais l'ensemble des aéroports dans le monde ont des zones spécifiques dans lesquelles peuvent être rassemblés les migrants ou les personnes, enfin toutes sortes de personnes, en attendant de passer la frontière de l'aéroport. Et aujourd'hui, il faut être un peu raisonnable, les aéroports sont les gros lieux de frontière, ce sont les hubs, les points d'ancrage de l'exercice de la frontière territoriale, de la frontière nationale. On peut multiplier le nombre d'exemples. Donc ça, c'est une première réalité de la frontière. La deuxième réalité de la frontière est une réalité d'un autre ordre. On peut considérer que la frontière est liée au régime de droits et de devoirs qui sont accordés aux résidents et aux citoyens. Excusez-moi, il y a un X à citoyens. Et aux citoyens par l'État dans lequel ces résidents et ces citoyens sont localisés. C'est-à-dire que la frontière va être manifestée juridiquement par le fait que les résidents en situation légale et les citoyens d'un pays vont bénéficier d'un certain nombre de droits politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. et vont être chargés d'un certain nombre de devoirs, tandis que les autres, tous les autres, ne bénéficieront ni de ces droits et ne bénéficieront pas de ces droits et n'auront pas de devoirs. Donc on a, vous voyez là, tout de suite une définition un tout petit peu moins géographiquement ancrée et politiquement et juridiquement déterminée de ce qu'est la frontière au sens frontière nationale.
La langue anglaise propose néanmoins une distinction entre le concept de borders et de boundaries. C'est-à-dire, la langue française ne retranscrit pas tout à fait la nuance que l'anglais fait entre les deux. Je dirais qu'on pourrait traduire le concept de borders par celui de frontières et celui de boundaries peut-être par celui de limite ou par celui de limitation. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà du concept de frontières physiques qui délimitent les limites d'un État, excusez-moi pour la phrase peu élégante, on peut concevoir aussi qu'on peut franchir des frontières ou des limites qui ne sont pas nécessairement celles d'un État, mais qui sont celles d'une classe à une autre, par exemple, ou toute une série de limites qui existent sans être matérialisées physiquement. Je suis, par exemple, frappé du fait que la distinction classique qu'on établit généralement dans les études migratoires entre migration interne et migration internationale, en réalité, est souvent une distinction très administrative et assez binaire qui ne correspond pas toujours à la réalité de la migration. Je vous prends simplement un exemple qui se passe dans la République de Maurice. On a souvent tendance à s'imaginer que Maurice, c'est juste l'île Maurice où on veut passer ses lunes de miel. En réalité, dans la République de Maurice, il y a l'île Maurice qui donne son nom à la République et puis il y a toute une série d'autres petites îles, 5 ou 6, qui sont autour de l'île principale. Et l'une de ces îles, c'est l'île de Rodrigue, qui est peuplée d'à peu près 30 000 personnes, qui sont essentiellement des pêcheurs et qui connaissent des situations de pauvreté assez alarmantes. C'est une île qui se trouve à 1h30 d'avion de Maurice. Techniquement, c'est le même pays. Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui un flux migratoire important de l'île de Rodrigue vers l'île de Maurice, où sont situées l'essentiel des opportunités économiques. Et que beaucoup de migrants à Rodrigue rêvent de pouvoir un jour aller à Maurice. Et donc vont économiser pendant plusieurs années pour pouvoir se payer le billet d'avion jusqu'à Maurice. Et puis une fois à Maurice, vont faire l'objet de toute une série de discriminations parce que ils vont être considérés comme les pouilleux de Rodrigue par rapport à Maurice qui a connu effectivement un développement beaucoup plus important. Ils vont vivre souvent dans des bidonvilles à Maurice et être considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Et pour ces migrants, même si techniquement, administrativement, c'est une migration interne, domestique, leur expérience migratoire fait que c'est en réalité une migration qui s'apparente à une migration internationale. Et à l'inverse, en Afrique de l'Ouest, où beaucoup de frontières sont relativement ouvertes, en tout cas l'été jusqu'à l'arrivée d'Ebola, pour des bergers nomades, par exemple, le franchissement d'une frontière se remarque à peine. Ce sont des frontières qui ont été tracées au couteau à la décolonisation, qui sont restées largement ouvertes et poreuses, et beaucoup vont traverser et passer une frontière d'un pays à l'autre sans même parfois le remarquer. Et donc leur migration s'apparente à une migration interne, même si en réalité c'est une migration internationale. Et donc ceci pour dire qu'au-delà du concept physique et matériel de la frontière, il y a toute une série de limites et de frontières qui sont dématérialisées, mais qui peuvent être des obstacles au mouvement et à la mobilité, parfois plus important qu'une frontière matérielle et physique entre deux États. Et beaucoup de participants au séminaire, sans préempter sur les conclusions, ont insisté sur le fait que, bien sûr, l'ouverture des frontières est une chose, mais qu'en est-il de l'installation des migrants dans le pays? Qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit de faire? Est-ce qu'ils auront le droit de travailler, par exemple? Est-ce qu'ils pourront prendre la citoyenneté du pays d'accueil? Ou est-ce que, une fois la frontière ouverte, vont se dresser toute une série d'autres frontières à l'intérieur même du pays qui peut-être vont être des obstacles plus difficiles encore à franchir qu'un mur ou une barrière.
Ce qui explique que notre travail, même si nous nous sommes intéressés à l'ouverture des frontières et donc a priori plutôt aux questions de mobilité, de flux, notre travail nous a invité cette double définition de la frontière comme à la fois border et boundary comme frontières physiques interétatiques et limites ou formes de discrimination ou de différenciation à l'intérieur d'une société, nous a invité à nous intéresser autant aux flux qu'au stock. Alors vous nous excuserez cette remarque tout à fait qui manque beaucoup d'élégance pour parler d'être humain, mais qui nous a invité donc à nous intéresser autant à la mobilité en soi, aux flux migratoires, qu'aux communauté immigrée et donc à la présence d'immigrants dans des sociétés d'accueil. D'où le nota bene de cette diapositive.
Ce qui est assez frappant, et même si le terme de flux et de stock peut un peu choquer, c'est pourtant le terme qui sont utilisés à la fois dans le langage des politiques publiques et aussi dans le langage académique. Au fond, comme si les hommes étaient des marchandises, flux et stock, ce sont des termes qui s'appliquent essentiellement au commerce, à la circulation des marchandises, qui curieusement, elle, est libre et quasiment sans frontières, alors que les hommes, au fond, alors qu'on leur applique le vocabulaire du commerce, eux sont contraints dans leur mobilité.
Vous aurez compris qu'un des enjeux de ce travail scientifique est bien sûr aussi de poser quelques questions éthiques sur notre pratique de chercheur et sur les politiques publiques. Pour vous décrire un peu, pas trop brièvement en fait, cette expérience, l'idée était, comme je le disais en guise d'introduction, de dépasser l'obstacle épistémologique que semble représenter la frontière, cette obligation de penser le monde et les migrations internationales avec des frontières, et avec des frontières fermées, plus précisément. Donc de dépasser cet obstacle épistémologique pour réfléchir à la mobilité humaine. Et donc, pour ce faire, nous avons décidé de partir d'une hypothèse de travail, comme il y a des hypothèses dans toutes les théories scientifiques, qui ne sont d'ailleurs que des théories, même les théories les plus apparemment avérées. Donc de faire l'hypothèse d'une totale libération de la mobilité humaine, une libération absolument inconditionnelle. Donc nous partons dans cette expérimentation à un instant qu'on va appeler T0, avec des frontières internationales qui existent, mais qui n'ont absolument pas de fonction d'empêchement de la mobilité humaine, qui ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui veut les franchir. Donc c'est notre hypothèse. Les frontières existent, mais elles ne peuvent pas arrêter un migrant, un demandeur d'asile, quiconque veut les franchir. Avec ce caveat, bien sûr, qui est que permettre la circulation, donc libérer la circulation, ne dit rien du régime d'installation des populations qui circulent. Donc notre hypothèse concerne exclusivement la liberté totale, absolue, inconditionnelle de circulation. Elle ne nous renseigne pas sur le régime de droit de la mobilité, c'est-à-dire avec quels droits on circule, et quels sont les droits dont bénéficient les migrants ou les réfugiés ou quiconque bouge dans les sociétés d'accueil, dans les sociétés d'origine, dans les pays de transit. Donc d'une certaine façon, nous bloquons notre variable en termes de border, donc de frontière interétatique dans son rôle classique, mais nous ne préjugeons pas du résultat que nous allons obtenir une fois cette hypothèse faite en termes de boundaries, en termes de discrimination, d'accès aux droits, de devoirs, etc.
Et donc, bien sûr, la question centrale, c'est est-ce que, c'est celle que tout le monde se pose, si jamais on ouvrait les frontières, est-ce que tout le monde migrerait dans tous les sens? Et pour dire ce qui préoccupe bien entendu nos décideurs, est-ce que l'Europe serait envahie de migrants qui viendraient de partout dans le monde chercher l'Eldorado européen? Et donc la question c'est, est-ce qu'au fond, les gens migreraient davantage si les frontières étaient ouvertes? Ce qui revient à poser la question de se dire, est-ce que la fermeture ou l'ouverture des frontières est un déterminant important des flux migratoires, des dynamiques migratoires dans le monde? Et donc voilà, c'est la question toute simple que nous avons posée aux participants du séminaire.
Et pour prolonger ce que disait François, l'ouverture des frontières va par exemple avec les politiques de visa ou les politiques de quota. Donc nous sommes là dans un monde où il n'y a plus de système de visa, pas de politique de quota. Et effectivement, à un moment où l'Europe parle énormément de la question de sa politique de visa, d'éventuels quotas d'immigration de main-d'œuvre, d'accords de réadmission, etc., ce sont des questions qui font vibrer nos hommes politiques, à la fois au niveau local et national, mais aussi, bien sûr, au niveau européen.
Parce qu'au fond, ce qui tracasse les politiques, pour le moment, de droite comme de gauche, c'est l'idée que il soit possible de maîtriser les flux migratoires, de contrôler les flux migratoires, de juguler les flux migratoires. Et souvent, l'instrument prioritaire qui est utilisé dans cette logique de maîtrise des flux migratoires, c'est l'ouverture ou la fermeture des frontières. Et donc, l'hypothèse et la question que nous posons, c'est de dire, est-ce qu'au fond, cet instrument politique a vraiment un impact sur notre capacité à maîtriser les flux migratoires? Est-ce que l'ouverture des frontières aboutirait à des flux migratoires non maîtrisés?
Et l'originalité, enfin, disons que le caractère un peu ébouriffant de notre démarche, ce n'est pas d'essayer de regarder si la fermeture des frontières va parvenir à juguler l'immigration, qui est en général la question que se posent les politiques européens aujourd'hui, mais plutôt de savoir, d'inverser la question, de savoir si l'ouverture totale des frontières va créer un surplus d'immigration. Donc on change un peu la façon de regarder le problème. Donc, pour vous donner un peu plus, pour rentrer un peu plus dans la, comment dire, dans la méthode que nous avons utilisée en tentant d'être le moins barbare possible dans nos explications, on peut faire un certain nombre de remarques sur cette technique que nous avons adoptée, qui est celle d'essayer de produire des scénarios. Donc des histoires, de raconter des histoires qui décriraient un monde futur dans lequel les frontières auront été supprimées. L'idée de rédiger des scénarios, ou plutôt dans ce cas-là de faire rédiger des scénarios à des groupes de participants de notre atelier, n'avait pas une fonction de prospective. Nous n'avons pas l'objectif de décrire ce qui va se passer. La prospective comme en font les gouvernements, comme en font les entreprises, pour essayer de prévoir des tendances d'un marché ou des tendances politiques, etc., en s'appuyant sur des sondages. Tel n'est pas notre propos. Pourquoi ? Parce que nous avons à l'origine de notre démarche une hypothèse qui est considérée par beaucoup comme irréaliste. François l'a dit plus tôt, une hypothèse qui est considérée comme une utopie, farfelue, droit de l'homme, etc., etc. Donc, notre but n'est pas la prospective. Notre but est plutôt épistémologique, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'enrichir notre connaissance du futur à travers ce dispositif hypothétique, qui est une façon, bien sûr, de réfléchir sur notre connaissance du présent. Pourquoi ? Parce qu'en présupposant que les frontières sont ouvertes, en faisant cette hypothèse, nous sommes obligés de changer notre approche des migrations, de changer notre vision, la vision que nous avons du contrôle des migrations par les États, qui semble, dans notre pratique de chercheur, dans notre interaction avec les faiseurs de politique publique, dans nos discussions avec nos collègues, qui semble une sorte de nécessité dans la façon dont on analyse de manière scientifique aujourd'hui les migrations. Donc il s'agit d'enrichir la connaissance du futur pour réfléchir à notre appréciation scientifique du présent, et non pas, comme le font les entreprises et les États, de faire de la prospective pour chercher à contrôler ou à gouverner le futur. Évidemment, tel n'est pas notre but, ou alors c'est un but caché que nous n'avouerons pas ce soir. Donc, connaître mieux le futur, nous débarrasser de nos biais idéologiques, avoir une vision un peu plus critique des données que nous utilisons dans notre travail de description des migrations contemporaines, des politiques migratoires, essayer de pallier le manque d'imagination ou de créativité de nos gouvernants en partie, mais aussi de notre propre manque d'imagination ou de créativité, ou celui de nos collègues lorsque nous essayons de faire des hypothèses sur l'évolution des tendances migratoires.
Surtout celui de nos collègues.
tout ce qui n'est pas nous, en fait. Nous espérons que cet exposé est assez clair. Nous avons voulu vous donner une définition de ce que cette méthode des scénarios du futur est. Donc cette définition est présentée sur cette diapositive, Il s'agit d'une combinaison d'histoires décrivant différents futurs, utilisant des méthodes qui rassemblent des perceptions et des données à propos de certitudes et d'incertitudes. Donc, dans cette définition, vous voyez qu'il y a la dimension narrative qui est très importante. Il s'agit de décrire des histoires. Bien sûr, il ne s'agit pas d'histoires purement imaginatives ou de créations purement imaginatives, mais de partir de données, donc de données chiffrées, quantitatives, qualitatives aussi, et de notre perception, c'est-à-dire de l'analyse que nous avons des flux migratoires et des politiques migratoires aujourd'hui. Donc de partir d'une connaissance scientifique et d'essayer de l'ébranler un peu, de la secouer pour à la fois connaître mieux le futur et la remettre en question. Et je précise, et c'est un dernier point mais qui n'est pas trivial, que cette réflexion sur les différents scénarios de futur d'un monde aux frontières ouvertes, appliquée à la question migratoire, ne s'intéresse pas seulement au futur probable, c'est-à-dire au futur dont la probabilité statistique, en fonction des données que nous avons aujourd'hui, est la plus forte. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de faire de la prospective stratégique comme en font les États ou les entreprises. Il ne s'agit pas non plus de s'intéresser exclusivement au futur préféré, au futur que nous aimerions voir advenir. Et cet élément est extrêmement important, car dans le déroulement de l'exercice, nous nous sommes rendus compte progressivement que nos collègues et nous-mêmes avions des biais éthiques et normatifs extrêmement, extrêmement puissants en ce qui concerne ce que nous nous autorisions à imaginer. Ces biais étaient différents en fonction des personnes, de leur passé, de leur vie, on va dire, à la fois scientifique, mais aussi de leur engagement citoyen parfois. Et donc, ces biais normatifs, ces préférences, s'exprimaient de manière extrêmement forte dans la sélection des scénarios possibles qu'ils nous présentaient. Quelqu'un d'extrêmement, nous ne donnerons pas de nom, mais quelqu'un d'extrêmement pessimiste allait envisager essentiellement des scénarios dramatiques et catastrophistes, quels qu'ils soient. Quelqu'un qui avait un très fort engagement associatif ou juridique allait plutôt envisager, alors là encore, des scénarios initialement catastrophiques, mais qui donnaient lieu ensuite à un rétablissement avec l'intervention d'acteurs bienveillants pour sauver en fait les migrants d'un certain nombre de catastrophes. Donc il y avait comme ça des... Initialement, dans la série d'exercices auxquels nous nous sommes livrés, il y a eu des expériences qui étaient d'ordre effectivement éthique et normatif et qu'il nous a fallu travailler pour aplanir ces différenciations et pour envisager au final un maximum de futurs possibles, qu'ils soient probables, très probables ou très peu probables.
Alors, pratiquement, comment est-ce que les choses se sont déroulées? C'était difficile de prime abord d'envisager un scénario global pour le monde entier. Et donc on a plutôt choisi de travailler à partir de couples migratoires, c'est-à-dire à partir de deux pays, soit entre lesquels les flux migratoires étaient déjà très importants, le Maroc et la France par exemple, soit entre deux pays dans lesquels il nous semblait que les flux migratoires pourraient être importants, mais ne l'étaient pas, notamment parce que soit que les frontières étaient fermées, soit que ces flux n'existaient pas pour toute une série de raisons. Prenons par exemple la Chine et le Japon. On pourrait imaginer qu'entre deux pays géographiquement relativement proches, même si politiquement très différents, on pourrait imaginer qu'il y ait des flux importants de Chinois vers le Japon. Ces flux sont quasiment inexistants. Et donc on s'est demandé, est-ce que cette absence de flux migratoires est due au fait que le Japon a des frontières particulièrement hermétique, une politique migratoire particulièrement close. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au Japon, mais ce qui est très frappant au Japon, c'est le très faible nombre de personnes immigrées ou d'origine immigrée que l'on rencontre. Vous pouvez vous positionner à l'heure de pointe dans une des gares de Tokyo et vous verrez passer des milliers de gens et vous serez le seul blanc. et vous ne verrez aucune personne de couleur. Et donc, il y a quelque chose qui est très frappant au Japon. C'est sans doute un des pays industrialisés dont la politique migratoire est la plus fermée. Et donc, on se dit, est-ce que, finalement, ce sont les frontières fermées qui empêchent les flux migratoires entre la Chine et le Japon? On en a pris d'autres classiques, entre le Mexique et les États-Unis, entre l'Inde et les Émirats arabes unis, et donc en essayant de travailler par couple migratoire. Et pour chaque couple migratoire, on a assigné à un petit groupe de participants qui était, chaque petit groupe était composé à la fois d'un chercheur qui était plutôt spécialiste de la région ou de l'aire géographique, et de chercheurs ou de praticiens qui étaient plutôt généralistes. Et on leur a demandé, par petit groupe, d'imaginer ce qui se passerait si on ouvrait la frontière entre ces deux pays, mais dans un contexte aussi d'ouverture généralisée des frontières. Donc on leur a demandé d'imaginer ce qui se passerait pas seulement si la frontière entre ces deux pays était ouverte, mais ce que seraient les flux migratoires entre ces deux pays si l'ensemble des frontières était ouverte. On s'est donné une perspective temporelle immédiate à T0 et une perspective à 25 ans, c'est-à-dire globalement la perspective d'une génération. Et on les a fait travailler en étapes successives. On leur a demandé de construire ces scénarios à partir de matrices.
Mais on y reviendra un peu plus loin. Une des choses qu'on a faites en début d'atelier a été de présenter un certain nombre de tendances, de grandes tendances qui rappelaient à notre instant T0 les faits, c'est-à-dire qui rappelaient l'état de la migration aujourd'hui, l'état de la démographie aujourd'hui, l'état de l'économie aujourd'hui, donc un certain nombre de données qu'on posait et auxquelles on associait dans certains domaines, par exemple en économie, en démographie ou sur des questions environnementales, auxquelles on associait des prévisions de prospective. Donc on a essayé de donner quand même, et c'est, j'espère que ça vous rassurera, à cet exercice de créativité scientifique un fondement sur une base de données dures, notamment quantitatives, qui ont été présentées en début d'atelier. C'était un atelier qui a duré 2 jours et une soirée. Et cette présentation concernait ce que j'ai appelé dans cette diapositive des mégatrends, c'est-à-dire des grandes tendances d'évolution internationale. Donc nous avons choisi de vous dresser, mais très très rapidement, de manière beaucoup plus succincte que nous l'avons fait à ce moment-là, de vous brosser un tableau de quelques-unes de ces tendances, mais de manière vraiment très rapide, notamment en vous redonnant un tout petit peu la géographie des migrations internationales qui concernent ici les migrations, essentiellement les migrations économiques. Donc vous voyez l'enchevêtrement, les grandes directions des principaux flux migratoires mondiaux et les grandes zones d'émigration ou les grandes zones de mobilité de travail. Donc vous voyez que ces flux concernent, sont en fait vraiment multidirectionnels, qu'ils concernent bien sûr des migrations de pays plus pauvres ou en développement ou du sud vers des pays du nord ou plus développés ou plus riches, mais qu'ils concernent aussi, à part égale aujourd'hui, hein, à raison de un peu plus de 50%, des migrations entre les pays pauvres, entre les pays en développement. Un exemple de ces migrations sont bien sûr les migrations intérieures au continent africain, qui sont bien plus importantes en termes de flux, en termes de nombre de personnes, que les migrations des Africains vers l'extérieur du continent. On s'est intéressé aussi, c'était un de nos cas, aux migrations entre des pays en développement, mais qui ont des niveaux de développement inégaux, a priori, enfin, c'est encore à déterminer, par exemple entre l'Inde et les pays du Golfe, entre les pays du sous-continent indien, on va dire, plus précisément, Bangladesh, Pakistan, Inde, Sri Lanka, etc., et l'ensemble des pays du Golfe, Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite, qui sont les pays du Golfe, qui sont les plus importants pays d'immigration, au monde, avec des parts de la population immigrée qui atteignent 85-89% dans certains pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis.
Il y a juste Monaco qui fait mieux.
Donc, nous avons exclu Monaco de notre étude pour des raisons sur lesquels nous ne nous exprimons pas. Donc, cette carte représente non seulement ces grands flux hein, qui concernent à peu près 230 millions de personnes dans le monde, et vous indique aussi, en vert clair et foncé, non seulement les... Donc, elle vous indique les flux, mais elle vous indique aussi les stocks, puisque les couleurs vert clair et vert foncé vous indiquent une part de la population immigrée dans la population du pays concerné. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Il s'agit là juste, je ne commande pas particulièrement cette carte, qui est une reprise de la carte précédente, mais qui met en valeur peut-être un peu plus que la carte précédente la dimension intra-régionale des migrations. Avec ces petites flèches circulaires, vous voyez qu'une grande partie des flux mondiaux se déroule en fait à l'intérieur de régions géographiques. Je vous donnais le cas de l'Afrique, qui est un des cas les moins connus, parce qu'en fait on a une représentation très biaisée de l'émigration africaine. Mais vous connaissez bien sûr le cas des migrations européennes. Les premières populations immigrées en Europe sont européennes. D'accord ? Bien très très loin devant les Turcs en Allemagne, les Maghrébins en France ou les Africains, je ne sais où. Donc voilà. Donc cette dimension intra-régionale de la migration internationale est extrêmement importante. Et il s'agit là juste d'une autre...
Aussi rappeler, et c'est très important, que l'essentiel des migrations dans le monde aujourd'hui sont confinées à l'intérieur des frontières nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'à peu près une personne sur sept dans le monde est un migrant ou une migrante, et de plus en plus une migrante, puisqu'il y a à peu près autant de migrantes que de migrants aujourd'hui, mais que la plupart d'entre eux migrent à l'intérieur des frontières de leur pays. Il y a 3 migrants internes pour un migrant international. C'est dû, bien entendu, au fait que la migration internationale coûte très très cher et mobilise énormément de ressources. On parle beaucoup des traversées de la Méditerranée pour le moment. Une traversée de la Méditerranée pour le moment, ça coûte entre 4 et 6 000 dollars environ par migrant. Donc c'est une somme évidemment considérable que les migrants doivent débourser s'ils veulent migrer dans un autre pays, où que ce soit dans le monde, par exemple. Si je prends la migration du Vietnam vers Singapour, pour vous montrer que ce n'est pas juste une question de distance géographique, on estime que pour un Vietnamien pour migrer à Singapour, ça lui coûte l'équivalent d'à peu près 6 ans de salaire. Donc ça veut dire que pendant 6 ans, vous ne devez rien dépenser, économisez tout votre salaire et vous pourrez vous payer le voyage jusqu'à Singapour. Bien entendu, le prix payé n'a rien à voir avec la distance, mais surtout avec les obstacles qui sont dressés à la migration. Et donc, globalement, on a aujourd'hui à peu près 750 millions de migrants internes, et ce chiffre est bien entendu sous-estimé, puisqu'on ne compte pas les déménagements, par exemple. Une migration interne en France ou dans les pays industrialisés, ça s'appelle volontiers un déménagement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont des migrants internes sans l'avoir vraiment jamais réalisé. Et donc c'est un chiffre qui est bien entendu sous-estimé, qui n'est appliqué que pour les pays en développement, auquel il faut ajouter à peu près 230 millions de migrants internationaux.
Et la remarque que François faisait sur la sous-estimation des migrations internes et qui faisait écho à la remarque précédente que je faisais sur la nature essentiellement intra-régionale de ces migrations internationales vous montre que nous ne sommes pas dans une époque de mobilité de grande distance totalement débridée. Que l'idée que des grandes migrations internationales sont en train de se passer à la surface de la planète dans tous les sens, vers n'importe où, etc., est largement surfaite. Les grands mouvements migratoires qu'on a observés dans le monde ont lieu essentiellement au XIXe siècle, et c'était une migration ouest-européenne vers les États-Unis. Un autre aspect de cette mobilité internationale, ce sont bien sûr les flux de réfugiés, la mobilité forcée. Là encore, on a une géographie que vous connaissez peut-être, mais qu'il faut quand même élucider souvent pour le grand public et qui concerne surtout les pays en développement. C'est environ 90% des réfugiés internationaux et des personnes déplacées par la violence, quel que soit leur statut, qui se trouvent dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, en général à proximité de leur pays ou lieu d'origine. Ce qui fait que les bulles que vous voyez sur cette carte sont en fait localisées plutôt dans les pays du Sud. Et qu'il y a même un effet de distorsion certain dans la taille des bulles que vous voyez en Europe occidentale et aux États-Unis, parce que cette carte ne prend pas en compte, par exemple, les migrants forcés à l'intérieur de leur propre pays, donc l'équivalent de ce dont François parlait pour les migrations économiques, qui sont environ 50 millions, donc des déplacés à l'intérieur des frontières de pays, qui n'ont même pas pu franchir les frontières de leur pays alors que la guerre faisait rage, que la famine était là, etc. Et ceux-là sont bien évidemment dans les pays pauvres, parce qu'ils n'ont même pas pu sortir de leur pays. Donc, entre 12 et 16 millions de réfugiés internationaux s'ajoutent ces 50 à 60 millions de déplacés internes qui polarisent la géographie de l'exil et du déplacement par la violence dans les pays pauvres.
Simplement pour donner des ordres de grandeur en matière de chiffres, on estime qu'à peu près 10% des migrations dans le monde aujourd'hui sont des migrations forcées, ce qui veut dire qu'un migrant sur 10 n'a pas choisi de se déplacer et a fortiori n'a pas choisi le moment, ni souvent la destination, et encore moins les conditions dans lesquelles il ou elle se déplaçait.
Donc, il s'agit là donc des grandes tendances de la mobilité internationale. Vous nous excuserez d'aller un peu vite éventuellement, mais on pourra revenir dessus dans les questions. D'autres variables qui sont intéressantes quand on réfléchit à l'évolution des migrations internationales dans l'hypothèse d'une ouverture des frontières sont bien sûr les variables démographiques, économiques, environnementales et politiques. Donc nous avons juste sélectionné trois cartes qui vous montrent l'évolution de certaines de ces tendances démographiques, économiques, environnementales ou politiques à 10, 15, 25 ans. Nous nous sommes basés bien sûr sur les travaux d'autres, des productions d'autres institutions de recherche. Donc très brièvement, je commente ici juste cette carte de la croissance démographique dans le monde et des perspectives pour 2030, donc un peu avant notre horizon T25. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a une hypercroissance des pays émergents, notamment de l'Inde et de la Chine, un déséquilibrage de la population mondiale, plus encore qu'aujourd'hui, vers l'Asie, le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, l'Asie, le sous-continent indien. Une croissance démographique aussi très forte en Afrique subsaharienne, avec une Afrique subsaharienne qui finirait sa transition démographique. Et une faible croissance, très faible croissance même, de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Voilà.
Simplement pour dire que forcément, les migrations sont aussi intrinsèquement liées à l'économie, donc il est intéressant d'essayer de se projeter sur les perspectives de croissance économique et donc de croissance du PIB, aussi imparfait que soit le PIB comme indicateur de la santé économique d'un pays, pour montrer qu'on est à l'avenir, et c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à réaliser en France et en Europe, dans des scénarios globalement en Europe de croissance assez proche de zéro. Et que globalement, l'Europe est un continent dont la croissance économique ne va plus beaucoup augmenter, et on est dans un état plus ou moins de stagnation, si on veut voir le verre à moitié vide, de prospérité, si on veut voir le verre à moitié plein. Par contre, dans d'autres endroits, bien sûr en Asie du Sud-Est, mais sans doute surtout en Afrique subsaharienne, la croissance économique va atteindre des niveaux records. La croissance du Nigeria pour l'année 2013 était de 13%, c'est-à-dire la croissance au Nigeria est deux fois supérieure aujourd'hui à la croissance économique en Chine.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit souvent migration et données économiques. Donc si on regarde cette carte, on peut, de manière un peu simpliste, considérer que l'Europe occidentale et les États-Unis, par exemple, ou le Canada, perdent de leur attractivité pour des migrants économiques dont l'objectif serait de maximiser leurs revenus, c'est-à-dire de migrer dans un endroit où la croissance et les perspectives d'emploi et de rémunération sont non seulement fortes à un instant T, mais sont aussi prometteuses pour l'avenir, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, par exemple. Donc ça, c'est une première lecture, la question de l'attractivité. Une deuxième lecture du lien entre migration et économie est de voir dans le sous-développement ou dans le moindre développement une source de départ. Alors bien évidemment, on vous présente ici des prévisions de croissance qui ne vous disent rien de l'état à l'instant T des pays. Il y a bien sûr, les pays d'Europe occidentale sont bien sûr plus riches pour l'instant que les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. On est d'accord. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le moindre développement de certaines zones du monde ne signifie pas forcément que ces zones vont être des zones de départ. Pourquoi ? Parce que, comme le disait François plus précédemment, pour migrer, pour s'en aller, il faut du capital. Il faut avoir de l'argent pour acheter son billet d'avion entre le Vietnam et Singapour. Ou il faut avoir un petit peu d'argent pour prendre le bus entre Khartoum et le Caire. Il faut avoir un petit peu d'argent même pour pouvoir marcher et éventuellement payer un passeur ou graisser la patte du douanier entre l'Égypte et la Libye. Et de l'argent encore pour payer son passage à travers la Méditerranée. Donc, quand on parle du lien entre migration et économie, même si on regarde l'état de richesse des pays et des individus à un instant T, il faut se méfier des liens trop rapides entre pauvreté signifie émigration. Non, pauvreté, en général, signifie je suis collé, je suis coincé là où je suis. Donc, il faut un peu de capital pour pouvoir migrer.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire attention à l'argument du type augmentons l'aide au développement des pays d'origine, ça va ralentir les flux migratoires. Généralement, ça a tout à fait l'effet contraire, puisque le développement des pays d'origine permet à davantage de personnes d'accéder à la migration, qui est souvent considérée comme un luxe inaccessible dans les pays d'origine. Ce n'est pas pour dire, évidemment, qu'il faut surtout arrêter d'aider les pays en développement, mais c'est ce lien qui est fait systématiquement entre le niveau d'aide au développement et le niveau de migration est souvent très très mal pensé et méconnaît profondément les réalités de la migration et les réalités du projet migratoire des migrants.
Alors que la corrélation vraiment exacte va être celle qu'on peut faire entre un pays avec un très fort PIB aujourd'hui, comme la France ou les États-Unis, qui décélère dans sa croissance, ce que nous montre cette carte, mais qui va voir une partie de sa population, quel que soit le niveau de qualification, attirée par des opportunités dans des pays à forte croissance. Donc ce qu'on peut tirer de cette carte en matière, quand on utilise les théories économiques appliquées aux migrations, c'est beaucoup d'émigration d'Europe occidentale et des États-Unis.
Il y a par exemple aujourd'hui davantage de Portugais qui migrent vers l'Angola que d'Angolais qui migrent vers le Portugal.
Et la France est le cinquième pays récipiendaire au monde de transfert de fonds de sa diaspora vers la mère patrie. Après, des pays comme l'Inde, le Mexique, qui sont des grands pays connus d'émigration. Donc la France est le cinquième pays récipiendaire de manne financière de sa diaspora.
Il y a par exemple 350 000 Français qui habitent à Londres. C'est-à-dire si les Français de Londres se regroupaient dans une ville et créaient une sorte de ville dans Londres, ça serait une ville de la taille de Bordeaux.
Je te laisse commenter cette...
Autre variable, évidemment, qui va influencer grandement sur les flux migratoires à l'avenir, c'est évidemment le changement climatique et plus globalement les transformations de l'environnement liées à des catastrophes naturelles et aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, l'environnement est un facteur majeur de déplacement forcé dans le monde. En 2013, 22 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison de catastrophes naturelles. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux qui sont forcés de partir à cause d'impacts plus lents du changement climatique, comme par exemple la hausse du niveau des mers que vous voyez sur cette carte. Vous savez sans doute, vous aurez sans doute vu que dimanche a été publié à Copenhague la synthèse du dernier rapport d'évaluation du GIEC, ce groupe de scientifiques chargé par l'ONU d'évaluer les risques et les dangers liés au changement climatique, qui prévoit que dans le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire si dès aujourd'hui nous commençons à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et si nous parvenons à respecter l'objectif d'une augmentation de la température de 2 degrés maximum d'ici 2100, dans ce scénario très optimiste que beaucoup qualifient aujourd'hui de quasiment irréaliste, le niveau de la mer s'élèverait d'un mètre en moyenne. Une élévation du niveau de la mer d'un mètre, ça a été simulé par la NASA sur cette carte, et vous voyez, si rien n'est fait pour protéger les territoires, toutes les zones en rouge seront inondées. Pour chaque centimètre d'élévation du niveau de la mer, considère que les pays perdent à peu près un mètre de côte, c'est-à-dire qu'il y a un mètre d'érosion pour chaque centimètre d'élévation du niveau de la mer. Si vous avez donc une élévation du niveau de la mer d'un mètre, vous voyez d'abord que, bien sûr, l'Europe ne sera pas épargnée, que les côtes danoises, allemandes ou néerlandaises auront de sérieux problèmes. On imagine bien entendu que les Danois, les Néerlandais et les Allemands érigeront des digues pour protéger leurs côtes. Mais regardez la situation dans des pays très densément peuplés comme les Philippines ou l'Indonésie. Là, très clairement, il sera impossible de protéger toutes les côtes et d'ériger des digues partout. Ce qui veut dire que le changement climatique et la hausse du niveau des mers va modifier les frontières, en tout cas au moins les frontières maritimes des différents pays, et va leur faire perdre des quantités assez considérables de territoire. Un mètre d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire pour un pays comme le Vietnam, 10% de territoire en moins. Il y a, quand on réfléchit aux frontières, un paradoxe à penser que la plupart des guerres dans le monde ont été menées pour la conquête de territoires et que nous sommes dans une situation où des territoires entiers vont disparaître devant nous sans qu'au fond on ne fasse rien, puisque ceci, je le rappelle, c'est ce qui va se passer dans le scénario le plus optimiste. Sans vouloir vous faire peur, dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une élévation de la température supérieure à 4 degrés d'ici la fin du siècle, qui est considérée comme réaliste par un grand nombre de climatologues, il y a une forte probabilité que cela entraîne la fonte des calottes polaires en Arctique et en Antarctique. Si toutes les glaces de l'Arctique fondaient, ce qui est une probabilité sérieuse dans l'hypothèse d'un changement climatique à plus 4 degrés, la hausse du niveau des mers serait comprise entre 6 ou 7 mètres, ce qui veut dire que Paris deviendrait une station balnéaire.
Bien sûr, ces informations sont à corréler avec l'augmentation générale de la population mondiale. Donc, moins de places, plus de gens. Voilà, tout ça, c'est un jeu de domino intéressant. Sur cette diapositive, François a déjà fait des remarques préalables. Donc, il s'agit juste de vous indiquer les différents couples migratoires à partir desquels nous avons ancré une réflexion sur ce que serait des mondes futurs où les frontières seraient ouvertes en matière de migration. Vous avez ici le détail des couples que nous avons utilisés. François vous a déjà parlé des équipes que nous avons composées. Je vais juste revenir plutôt brièvement, parce que le temps passe, hein, sur le déroulé des exercices. Donc il s'agit de faire travailler en groupe nos équipes de chercheurs, praticiens, à partir de cette réflexion ancrée géographiquement dans les couples migratoires à travers quatre étapes. Les premières étapes sont en fait des étapes d'agitation d'idées de manière collective qui sont structurées avec des séries de « jeux » entre guillemets, au sens économique du terme. L'important étant d'arriver à la constitution d'une matrice simple et de matrices complexes qui vont permettre aux équipes de créer quatre scénarios possibles de futur dans leur région si on ouvre les frontières. Et la construction de ces scénarios se fait grâce à l'identification de variables clés, c'est-à-dire de tendances ou de phénomènes qui vont très fortement structurer, l'évolution de ce futur possible. Et c'est ce à quoi sert cette première étape qui est la constitution d'une matrice simple. Donc pour vous donner une représentation visuelle, pour identifier ces variables qui vont avoir un impact très fort sur ce qui va se passer dans 25 ans, on travaille avec deux axes, un axe des Y et un axe des X, dans lequel on va répertorier, à l'intérieur duquel on va répertorier tout un tas d'événements, de choses qui peuvent se produire, qui vont être classées en fonction de leur importance, de leur impact sur les migrations internationales et de leur possibilité, de leur certitude ou de leur incertitude. Et l'idée va être de se concentrer sur ce qui est à l'extrême, à l'extrémité de notre matrice, qui sont les événements qui sont très critiques pour l'évolution d'un futur possible et qui sont très importants, mais qui sont en même temps très incertains. Pourquoi ? Parce que les choses très certaines, elles sont moins intéressantes pour nous, ce qui est très certain. Bon, oui. Et en revanche, ce qui est très incertain va être très crucial dans l'évolution de cet avenir possible. Je te laisse commenter sur cette deuxième type de matrice.
Simplement pour dire qu'on a demandé à chacun des groupes, on va accélérer un peu, de choisir deux variables clés qui, selon eux, allaient déterminer les différents futurs migratoires des couples qu'ils avaient choisis. Et qu'à partir de cette identification de deux variables clés, on pouvait identifier quatre scénarios migratoires selon l'endroit où vous positionnez sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Et donc, en fonction des couples migratoires, chacun a choisi deux variables différentes, mais des variables qui leur semblaient clés à considérer dans le contexte du couple qu'ils avaient.
Donc on peut prendre par exemple le résultat des réflexions du groupe qui a travaillé sur le Brésil et la Bolivie. Ils ont choisi comme variable la légalisation de la drogue, qui est une des ressources économiques de la sous-région et de la Bolivie notamment. Donc leur axe vertical représente une non-légalisation absolue du commerce des narcotrafics, enfin du commerce des narcotiques, donc la guerre contre la drogue, ou une légalisation absolue commerce des narcotiques. Leur deuxième variable concerne plutôt les droits accordés aux migrants une fois qu'ils sont accueillis dans une société où ils arrivent. Donc, bien sûr, la circulation est totalement libérée, mais on a là une variable qui détermine soit pas du tout de droit pour les migrants par rapport aux citoyens du pays, donc une très grande inégalité de droit, soit une totale égalité de droit entre les migrants et les nationaux. Et donc, quatre scénarios qui ont été envisagés en fonction de totale inégalité, légalisation de légalisation de la drogue, totale inégalité, guerre contre la drogue, totale égalité, guerre contre la drogue, et totale égalité et légalisation de la drogue. Avec, bien sûr, un scénario beaucoup plus positif dans le coin supérieur. Alors, je ne saurais pas dire si c'est gauche ou droite de ce côté-là. Enfin, le scénario qui s'appelle Narcosur, qui est beaucoup plus positif puisque les migrants ont des droits, ils peuvent circuler, la drogue a été légalisée, donc les narcotrafiquants ont été éradiqués et
je confirme que c'est à droite.
Voilà. je te laisse commenter peut-être cette
voilà, alors c'est exercice similaire dans le cas du couple sino-japonais où on a comme variable soit une plus grande intégration régionale des pays asiatiques et à l'inverse un éclatement, une fragmentation du continent asiatique, et comme autre variable, la question de l'évolution démographique. Est-ce que soit il va y avoir une explosion démographique dans la région, ou est-ce qu'au contraire il va y avoir un ralentissement de la démographie, voire un déclin démographique?
Donc, ces scénarios ont donné lieu à au dessin de cartes géographiques qui représentent les flux migratoires tels qu'on les envisage dans chacun des quatre scénarios. Donc on va passer rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de commenter en détail, mais de montrer que les futurs possibles en termes de migration, la géographie des migrations change et le volume des migrations change. Dans les scénarios, on demandait aux participants d'indiquer effectivement si on avait plus de migration ou moins de migration. Et par la carte, on leur demandait de représenter la géographie des flux, où allaient les migrants, où ils n'allaient pas, etc. Donc vous avez par exemple là les différents exemples. Le cas marocain, les variables choisies étaient plein emploi ou chômage, donc une variable plutôt socio-économique, et encore une fois la variable droit minimum, droit maximum, donc égalité des droits entre les citoyens et les migrants, inégalité entre les citoyens et les migrants. En Inde et pour l'Inde et les Émirats arabes unis, on avait une variable cette fois verticale qui partait de la répression de l'immigration et donc d'une inégalité en termes de traitement des migrants ou l'incorporation, et une variable économique en horizontale qui traitait de la compétitivité migratoire. De la même façon, les cartes. Je passe vite. Nous arrivons maintenant à la conclusion qui reflète en fait la dernière partie du séminaire dans lequel nous avons demandé aux participants qui avaient travaillé sur la base de données empiriques, quantitatives, etc., et de dossiers qui leur avaient été fournis concernant leur couple migratoire, de réfléchir de manière un peu plus globale. Et cette réflexion n'a pas donné lieu à la composition de matrice, elle a donné lieu plutôt à une discussion dont nous vous donnons ici quelques éléments, mais sur laquelle nous sommes en train de formaliser dans le cadre de l'article.
D'abord, la principale conclusion à laquelle les participants ont arrivé, c'est que l'ouverture des frontières ne se traduirait pas par une augmentation significative des flux migratoires. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on ouvrirait les frontières qu'il y aurait forcément plus de migrants dans le monde. Et que vraisemblablement, la tendance à la migration continuerait en augmentant comme elle le fait depuis plusieurs années maintenant, mais qu'on n'aurait pas de choc d'augmentation lié à l'ouverture des frontières.
En revanche, on aurait un renforcement de formes de circulation, donc de flux très courts, la migration étant le changement de résidence, pour au moins un an. On aurait une augmentation de la circulation et éventuellement aussi beaucoup de migrations de retour.
Puisque les frontières fermées fonctionnent dans les deux sens, bien sûr, que beaucoup de migrants aujourd'hui sont coincés dans leur pays de destination dont ils ne peuvent plus sortir.
Une variable critique, deux variables critiques, vous l'aurez compris, qui émergent des scénarios, les variables critiques sont bien sûr les variables de droit. Donc la question de l'accès aux droits, les droits socio-économiques et les droits politiques. Mais une autre variable qui a été soulignée par les participants est bien sûr non seulement liée aux droits, mais aussi liée aux conditions économiques dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine, c'est-à-dire l'accès à l'emploi et les conditions matérielles de l'installation.
La question des contrôles a été évoquée beaucoup dans les scénarios les plus pessimistes en estimant que l'ouverture des frontières s'accompagnerait par contre d'une individualisation croissante des contrôles, puisque si vous ne pouvez plus contrôler à la frontière, vous allez devoir contrôler les individus dans leur mobilité individuelle, avec évidemment toutes les questions que ça pose, notamment de respect de la vie privée. On a également évoqué l'idée que les mobilisations transnationales des migrants soient de plus en plus importantes, et notamment que le rôle des diasporas s'accroisse, ou qu'il y ait de plus en plus de volonté des migrants de participer et d'intervenir dans la vie politique de leur pays. C'est déjà le cas dans certains pays. En Italie ou au Mexique, par exemple, les migrants ont une influence considérable sur la vie politique intérieure. En France, c'est malgré tout relativement limité. Frédéric Lefebvre est député des Français d'Amérique du Nord, mais à part quelques députés élus par les Français expatriés, ça a une influence relativement faible. On pourrait imaginer qu'une ouverture des frontières accroîtrait cette influence.
Et vous aurez compris qu'une des conclusions qui pour l'instant semble se dégager de ce travail scientifique est que, pour reprendre les deux concepts que nous avons présentés en début de présentation, que si on affaiblit la fonction de la frontière territoriale, on a de très grandes chances de renforcer la fonction des frontières intérieures à nos sociétés. Et donc, on remplace les borders par des boundaries, par des phénomènes de discrimination à l'emploi, au droit, au logement, à la circulation à l'intérieur des pays éventuellement, etc., etc. Et notamment quand on pense à l'accès, par exemple, non seulement aux droits socio-économiques à un instant T, mais aussi à l'accès à la naturalisation ou l'installation des personnes dans un pays d'accueil. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, un très très grand merci pour cette présentation exigeante, enfin que vous avez dû concentrer, mais merci vraiment pour les éclairages apportés qui conduisent, je crois, à revoir beaucoup d'idées reçues. Donc ce sont vraiment des éléments de réflexion tout à fait importants, essentiels que vous nous avez apportés ce soir. Alors nous allons prendre maintenant un temps pour des questions. Bon, nous allons probablement dépasser un petit peu la limite ou la frontière, je ne sais pas, du temps habituellement imparti à cette soirée, mais il serait dommage de ne pas laisser du temps pour quelques questions. Un micro va circuler et sur le point de circuler, pouvez-vous, très rapidement, sans tarder, vous manifester en... Il y a une question tout au fond, je crois.
Oui, bonsoir. Je voulais poser la question suivante. Est-ce que vos conclusions sont partagées par, je dirais, des experts d'autres pays, OCDE, voire autres ?
Alors, on prend plusieurs questions. Hein. On prend peut-être trois questions. Une, trois, quatre, une deuxième.
Oui, votre méthode paraît tout à fait intéressante et passionnante. Mais est-ce que les résultats qui sont obtenus ne sont pas liés au choix de couples migratoires qui, en fait, a priori, ne posent aucun problème ? Si vous aviez choisi d'autres couples migratoires comme ceux qui posent actuellement un problème majeur à nos pays, est-ce que les conclusions auraient été identiques ?
Et puis une troisième question qui nous vient de Bordeaux.
C'est, ne faut-il pas intégrer les rivalités entre communautés religieuses dans les causes de migration ? Et une autre personne demande s'il y a des effets bénéfiques à l'ouverture des frontières pour être imaginé.
Voilà. Bon, écoutez... Laisse le soin de prendre des questions.
Alors, peut-être sur la première question, qui est peut-être la plus facile parce que technique, est-ce que les conclusions sont partagées par des experts étrangers, notamment d'autres pays de l'OCDE ? Pour l'instant, pas encore. C'est un séminaire qui rassemblait essentiellement des experts français et quelques Belges et un Suisse, c'est-à-dire des gens francophones, pour le dire platement. L'objectif que nous avons, quand même, à terme, c'est de publier les conclusions de ce séminaire et d'inviter à un dialogue plus important avec d'autres experts, notamment d'autres pays de l'OCDE, mais aussi de pays en développement. Donc je dirais que c'est une limitation pratique et financière pour le moment qui nous a conduit à ne pouvoir inviter que des francophones, mais l'idée est bien de discuter de ces résultats avec d'autres experts étrangers.
Différentes organisations internationales, l'OCDE par exemple, mais aussi des organisations liées à l'Organisation des Nations Unies, ont utilisé des méthodes de scénario, les entreprises utilisent des méthodes de prospective de scénario, mais je dois préciser que cette méthode en particulier est relativement singulière et que la seule démarche qui est à peu près comparable a été menée à l'université d'Oxford par des collègues que nous connaissons bien et avec lesquels nous travaillons, François et moi. Donc nous partageons une méthodologie, une partie de la méthodologie, mais sinon le dispositif est quand même relativement original. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, à la fois au niveau régional des couples migratoires et international, sont relativement nouvelles.
Alors, vous avez raison de dire, monsieur, que, évidemment, les résultats sont très liés au choix des couples migratoires. Et non, moi, je ne serais pas d'accord avec vous sur le fait qu'on a choisi uniquement des couples migratoires faciles ou non problématiques. On a essayé, en choisissant les couples migratoires, d'avoir une certaine variété, à la fois une variété géographique, régionale, une variété en termes de flux migratoires. Dans certains couples, il y a des flux migratoires très importants, dans d'autres cas non. Et il nous semble que certains sont quand même problématiques. Par exemple, entre la Chine et le Japon, on sait que les relations, en tout cas au moins diplomatiques, sont très tendues entre les deux pays. Et donc on peut imaginer qu'une immigration chinoise au Japon pourrait être problématique. Et donc, voilà. Mais je suis d'accord avec vous que c'est forcément une limitation de la méthodologie. Dans, idéalement, nous aurions pu mobiliser des milliers d'experts et les faire travailler sur tous les couples migratoires possibles et imaginables. On était malheureusement limité par les moyens du ministère de la Recherche.
Par ailleurs, l'actualité aujourd'hui aux États-Unis nous prouve que l'immigration mexicaine aux États-Unis reste éminemment problématique, pas seulement l'immigration mexicaine, mais aussi l'immigration de transit des pays centro-américains vers les États-Unis à travers le Mexique, et que la politique américaine et le gouvernement Obama luttent encore aujourd'hui avec les politiques publiques à mener dans ce cadre-là, et que les tensions, par exemple, entre le monde des entreprises, différents États américains et les deux partis politiques majoritaires sont extrêmement fortes. Donc, des coupes migratoires non problématiques, je dirais qu'ils le sont tous, mais à différents niveaux. Mais évidemment, nous aurions pu envisager d'autres couples migratoires, et nous ne perdons pas espoir de pouvoir le faire. En ce qui concerne peut-être les rivalités de communautés religieuses comme cause de migration, vous aurez remarqué que nous ne sommes pas rentrés dans le détail de ce qui cause les migrations internationales de manière extrêmement précise, mais c'était effectivement un des objets de discussion dans le cadre de l'établissement des scénarios, mais aussi dans la partie plus globale ou mondiale de la réflexion. Et nous avons examiné justement ces rivalités, nous n'avons pas examiné la variable rivalité, nous avons examiné la variable diversité religieuse. En partant du principe que la diversité religieuse ou culturelle ou linguistique ou tout ce qu'on veut n'est pas forcément source de rivalité. Et que même la recherche en sciences sociales a très très fermement montré que la diversité religieuse, avec des études quantitatives sur l'ensemble de la planète, n'est pas une cause de conflit. C'est un contexte dans lequel un certain nombre de conflits peuvent éclore. Sinon, tous les endroits sur la planète dans lesquels il y a de la diversité religieuse seraient en guerre. Bon, bref. Donc c'est un contexte, mais ce n'est ni une cause nécessaire, ni une cause suffisante. Donc, de fait, c'est plutôt cette question de la diversité religieuse qui nous a intéressés, et elle nous a intéressés comme une conséquence cumulative de la migration. C'est-à-dire de regarder les sociétés dans lesquelles il y a soit de la diversité au départ, soit de la diversité induite par la migration, et en général c'est un peu la poule et l'œuf, donc il y a toujours un peu de la migration quelque part, et de regarder l'effet cumulatif de l'arrivée de nouveaux migrants ou dans ces sociétés. Le cas qui vous saute peut-être moins à l'esprit, mais qui est intéressant, c'est le cas des Émirats Arabes Unis, dans lequel vous avez une très très petite part des résidents qui sont des nationaux et une très grande majorité, 85-89% des résidents qui sont des étrangers, avec un très fort multiculturalisme de cette population étrangère. Donc vous voyez que nous avons pris cette question des communautés religieuses sous un autre angle que celui des guerres de religion qui causent par exemple l'exil, quoi. On a utilisé ce facteur, mais dans un autre...
Alors, j'aime bien la question des effets bénéfiques de l'ouverture des frontières. C'est effectivement une question logique qu'on peut se poser, puisqu'on peut se dire, si finalement l'ouverture des frontières ne changerait pas grand-chose aux flux migratoires dans le monde, à quoi bon ? Est-ce qu'il y aurait des effets bénéfiques ? Je pense que l'effet bénéfique principal, ça serait de rendre la migration plus sûre, moins dangereuse. Ça serait simplement d'éviter les crises migratoires. Les 3500 morts en Méditerranée que nous avons connus depuis le début de l'année 2014 n'auraient pas lieu d'être, puisque la traversée de la Méditerranée pourrait se faire simplement en avion ou sur des bateaux cargo, et que les gens ne seraient pas obligés d'embarquer sur des embarcations de fortune. La crise des migrants à Calais, puisqu'il faut l'appeler maintenant crise, n'aurait pas lieu d'être non plus. Tous ces migrants pourraient librement aller en Angleterre, ne seraient pas obligés de se cacher dans les essieux des camions. Et donc je pense que l'effet bénéfique principal de l'ouverture des frontières, ça serait de rendre la migration plus sûre et de faire cesser ce qu'on appelle aujourd'hui les crises migratoires, puisque chacun pourrait se déplacer là où il veut. Il y a aussi d'autres effets. Je veux simplement donner une toute petite anecdote sur le fait que les migrants pourraient sortir du pays dans lequel ils sont. À Sciences Po, pour le moment, nous essayons de recruter une jeune chercheuse pour faire un post-doctorat à Sciences Po. C'est une jeune chercheuse coréenne qui a fait son doctorat à Oxford. Un double doctorat en santé publique et en études migratoires. Elle s'appelle Jane, elle est coréenne, elle habite à Oxford depuis 4 ou 5 ans, depuis qu'elle a fait son doctorat. Je faisais partie de son jury de thèse et donc on souhaiterait la recruter à Sciences Po. Et donc nous l'avons invitée récemment à passer un entretien d'embauche qu'elle n'a pas pu passer. Parce que simplement, elle nous a dit, écoutez, je suis coréenne, je suis en Angleterre sur un visa étudiant, maintenant j'ai soutenu ma thèse, j'ai reçu mon diplôme de doctorat, j'ai très peur que si jamais je quittais l'Angleterre, ne serait-ce que pour aller à Paris passer un entretien d'embauche, je ne puisse plus rentrer après auprès de mon fiancé dans ma maison en Angleterre et qu'on ne me laisse plus prendre l'Eurostar dans l'autre sens. Si une migrante hyper qualifiée, hyper privilégiée, qui vient déjà d'un pays industrialisé, la Corée du Sud, qui est titulaire d'un double doctorat d'Oxford, craint de ne pas pouvoir se rendre en France, dans le pays d'à côté, pour passer un entretien d'embauche dans une université qui veut la recruter, imaginez quelle est la situation de migrants qui viennent de pays en développement, qui ne possèdent pas de double doctorat de l'université d'Oxford et qui veulent simplement rentrer au pays pour voir leur famille plutôt que pour passer un entretien d'embauche, ils ne peuvent pas. Je pense que la conséquence positive primordiale de l'ouverture des frontières, ce sera simplement d'augmenter le bien-être des gens, tout simplement.
Et peut-être que une deuxième conséquence bénéfique que nous espérons de ce travail, notamment quand on met en lumière l'importance des régimes de droit et de la question des droits économiques, sociaux et politiques accordés aux migrants dans les sociétés d'accueil, en montrant qu'en fait ce sont ces variables-là qui vont être discriminantes, beaucoup plus que la question d'ouvrir ou de fermer les frontières, a aussi une fonction, c'est que ça nous invite, nous chercheurs, mais aussi nous citoyens et nous sociétés civiles en général, à nous intéresser aux politiques ici et maintenant, c'est-à-dire aux politiques de traitement des étrangers, des demandeurs d'asile, dans les pays d'accueil, comme par exemple la France, mais pas seulement. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup en Afrique, en Arabie Saoudite, François, dans d'autres pays. C'est-à-dire que ça met cette question de l'immigration, de la régulation de l'immigration, entre les mains des citoyens, et ça éloigne un peu ce côté irréaliste de la gestion de l'immigration par des frontières où personne ne va, ces zones de rétention où personne ne va, ces zones dans les aéroports où personne ne va, ces postes frontières, voilà. Donc ça rapproche un peu la question des politiques migratoires de nous.
Peut-être deux questions encore, nous ne dépasserons pas 21h. Il y a madame au deuxième rang du milieu.
Bonjour, j'aurais voulu que vous...
Vous parlez en face du micro.
Oui, bien, voilà. Bonjour, j'aurais voulu que vous précisiez ce que vous entendiez, je n'ai pas pris la phrase en entier, mais l'augmentation de la politisation transnationale des migrations. Parce que, enfin, il me semble que ça peut plus, enfin, ça ne peut pas se régler au niveau d'une nation et même de l'Europe. Enfin, voilà. Donc, j'aurais bien voulu des précisions là-dessus. Merci.
Oui, et puis, monsieur, au cinquième, sixième, septième rang.
Deux petites questions. En fait, vous avez donné un certain nombre d'éléments qui se prêtent à des modélisations quantitatives. Est-ce que cette approche-là a déjà été tentée et qu'est-ce qu'elle a donné? Et deuxième question, vous avez une conclusion qui est assez forte, qui consiste à dire que l'abolition des frontières extérieures pourrait conduire finalement à augmenter des barrières intérieures. Est-ce que vous avez associé des chercheurs en sciences politiques, notamment sur les questions des cohésions internes des sociétés, dans l'hypothèse d'une ouverture des frontières, qui est un argument qui est souvent agité sur ces questions?
Eh bien, voilà de bonnes questions pour terminer.
Vous êtes sur la question de la politisation croissante transnationale des migrants. Simplement, on imagine que les allers-retours entre pays d'origine et pays de destination seraient forcément beaucoup plus faciles. Ce qui veut dire que les migrants s'intéresseraient davantage, fait-on l'hypothèse, à ce qui se passe dans leur pays d'origine et souhaiteraient avoir, je dirais, des activités entre leur pays d'origine et leur pays de destination. Ce qui peut être des activités commerciales, par exemple, des boîtes d'import-export ou des agences de voyage. Ce qui peut être des activités culturelles. Par exemple, on peut imaginer l'organisation de festivals culturels importés du pays d'origine. Ce qui peut être aussi des mobilisations politiques, c'est-à-dire peser, par exemple, sur les transitions démocratiques dans leur pays d'origine ou soutenir certains candidats, certains partis politiques dans leur pays d'origine. Ces mobilisations seraient évidemment beaucoup plus faciles si les allers-retours sont plus faciles, ce qui éviterait de couper, je dirais, les migrants de leur pays d'origine. Ça dépend évidemment de ce que le pays d'origine sera prêt à leur reconnaître comme capacité d'influence. Certains pays d'origine permettent à leurs expatriés de participer aux élections, d'autres pays ne le permettent pas. Et ça dépend aussi beaucoup de savoir si le pays d'origine encourage ou non l'émigration.
En ce qui concerne votre remarque, qui est effectivement très intéressante, comme il s'agit d'une des conclusions, une des remarques conclusives sur l'importance de cette variable de droit et d'octroi de droit à terme, en termes égaux aux étrangers, quel que soit leur statut, et aux citoyens, nous n'avons pas encore lancé sur ces conclusions-là de nouveaux programme de recherche. En revanche, ce qu'on peut noter rapidement, et peut-être que ce sera où je laisserai François reprendre la parole, c'est que cette égalité des droits entre les étrangers et les citoyens dans une société donnée, c'est plus ou moins ce que propose la Convention de 1990 pour le droit des migrants et de leurs familles. C'est-à-dire que c'est un texte de droit international qui n'a été signé et ratifié que par très peu de pays et en général des pays d'émigration et qui accorde des droits économiques et sociaux et un minimum de droits politiques à toutes les personnes qui migrent, quel que soit leur statut, c'est-à-dire migrants légaux, migrants clandestins, réfugiés, etc., etc. Donc à ce titre, on comprend pourquoi elle n'a pas été signée par les pays d'immigration. Donc le cadre juridique de cette homogénéisation existe déjà. Et après, l'argument de l'acceptabilité ou de la faisabilité de cette péréquation des droits nous semble pour l'instant, enfin peut-être que je m'avance un peu, mais un argument essentiellement politique qui ne correspond pas à des réalités sociologique, mais à des formes de mobilisation politique par certains partis ou certains acteurs du jeu politique. Mais on n'a pas de preuves scientifiques de taux d'acceptabilité de la diversité. Ça n'existe pas. C'est une fiction. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de mesure. Il n'y a que des processus.
Peut-être pour prendre aussi un argument éthique, puisqu'après tout, on est dans le cadre des mardis d'éthique, sur cette question qui est effectivement une question importante et qui est souvent posée. On peut se dire, si tout le monde peut aller partout, qu'est-ce qui constitue encore une société? Qu'est-ce qui nous rassemble les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait la cohésion sociale? Et souvent, on a imaginé que la cohésion sociale passait par les nations et qu'il y avait une cohésion sociale dans un projet national. Et même si c'est une question lancinante sur qu'est-ce qui constitue une nation, est-ce que c'est l'appartenance à un même territoire, le fait de parler la même langue, le fait de pratiquer une même culture, je pense qu'aujourd'hui, les questions de cohésion sociale sont sans doute plus importantes que jamais, mais je pense qu'elles doivent dépasser le cadre national et qu'on ne peut plus aujourd'hui faire une cohésion sociale qui se réduise à un cadre national. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'on est en train d'essayer, dans une logique de fragmentation de plus en plus forte, pour essayer de retrouver des noyaux de cohésion. Et je pense que c'est quelque part un peu à l'encontre de la marche du monde. Et si on peut se projeter dans un scénario utopique, je pense que la véritable cohésion sociale serait une cohésion cosmopolite ou cosmopolitique où tous ensemble sur Terre, nous ferions humanité. Et c'est sans doute la cohésion sociale la plus idéaliste et aussi malheureusement la plus utopiste, vous savez tous. Et j'en juge par vos ricanements que nous en sommes loin.
Nous en sommes peut-être loin, nous en sommes peut-être un peu moins loin ce soir. En tout cas, je crois, enfin, pour rebondir sur le dernier point, qu'on peut dire aussi que les nations se renforcent. Enfin, on a vu dans l'histoire que les nations se renforçaient aussi de leurs ouvertures et des échanges qui les constituaient, au point de vue culturel notamment. Voilà. Que seraient nos nations, voilà, si elles ne s'étaient pas construites et édifiées à partir des échanges, hein, qui les ont édifiées.
Sans immigration, dans 50 ans, il n'y a plus d'Italiens en Italie. Voilà. Si on prend juste les taux de natalité en Italie.
Et plus d'industrie du bâtiment en France, certainement. Voilà. Écoutez, à nouveau, un très très grand merci à Hélène Thiollet et François Gémen pour le rapport, je crois, qui... tout à fait original et qui déplace sans doute beaucoup de nos réflexions, qui nous apporte des éléments, je crois, forts, assurés, pour nous aider à progresser dans une réflexion citoyenne. Ce sont des mardis d'éthique publique. Je crois que progresser dans une réflexion citoyenne, c'est quand même un des objectifs fondamentaux de ces soirées. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour nous avoir aidés.
Merci à vous. Merci à vous.